Vous écoutez France Culture.
Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance qui vous propose cette semaine de réentendre les émissions que nous avions enregistrées entre le 15 et le 19 juin 2009 sur la question de la bioéthique. Hey, you know what? Suite et fin ce vendredi d'une semaine sur la vie dans les nouveaux chemins de la connaissance. Je crois plus à la mort dans la vie qu'à la vie après la mort, disait André Green. Mais qu'en est-il de la vie sans mort? De la perpétuation indéfinie de la vie? Est-elle possible et surtout est-elle souhaitable? À quoi bon vivre si l'on doit mourir, mais à quoi bon vivre bien si l'on ne meurt plus? Bref, si nous étions immortels, y aurait-il encore des moments impérissables? Après Jean-Claude Amezène, venu lundi distinguer la mort comme sculpteur de la mort comme faucheuse, après Paul Valadier et Jean-Didier Vincent, venu s'engueuler mardi sur le caractère sacré ou non de la vie, après Guillaume Leblanc, revenu pour vous sur le normal et le pathologique, le grand livre de Georges Canguilhem, après enfin Barbara Stiegler, qui nous a parlé de la vie chez Nietzsche, c'est Jean-Michel Beignet, qui enseigne la philosophie à la Sorbonne, membre des comités d'éthique du CNRS et de l'INRA, et auteur, entre autres, de « Demain les post-humains ». Le futur a-t-il encore besoin de nous? Chez Hachette Littérature dans la collection Haute Tension, Jean-Michel Beignet donc, qui vient nous parler de l'immortalité.
Mais d'où viendront tous ces hommes? Où sont-ils maintenant? Où est le vaste sein du néant, gros de monde, qui les renferme encore les générations à venir? La vraie réponse, celle qu'il faudrait faire en souriant à une telle demande, ne serait-elle pas celle-ci? Et où serait-elle, autre part que là seulement où toujours le réel a été et sera? Dans le présent et dans son contenu, par suite en toi, questionneur dupe de l'apparence, et bien semblable dans cette ignorance de ton être propre à cette feuille d'arbre qui, jaunie à l'automne, est déjà presque tombée, pleure sa disparition, sans vouloir se consoler par la perspective de la verdure nouvelle dont l'arbre se revêtira au printemps et qui dit en gémissant « Non, ce n'est plus moi, ce sont de toute autre feuille. » Ô feuille insensée, où prétends-tu donc aller? Et d'où les autres pourraient-elles bien venir? Où est-il ce néant dont tu redoutes le gouffre? Reconnais donc ton être propre, ce qui justement en toi a une telle soif d'existence, reconnais-le dans la force intime, mystérieuse, dans la force active de l'arbre qui, toujours la même, dans toutes les générations de feuilles, reste à l'abri de la naissance et de la mort.
Ainsi, tout ne séjourne qu'un moment sur terre et court à la mort. La plante et l'insecte meurent à la fin de l'été. L'animal, l'homme, au bout de peu d'années, la mort fauche toujours, sans relâche. Et cependant, comme s'il en était nullement ainsi, tout existe toujours en son lieu, à sa place. C'est à en croire que tout est impérissable. Toujours, la plante verdit et fleurit, l'insecte bourdonne, l'animal et l'homme subsistent dans une indestructible jeunesse, et les cerises que nous avons déjà goûtées mille fois, nous les retrouvons à notre portée chaque été. Les peuples même demeurent, comme des individus immortels, tout en changeant parfois de nom.
Telle est l'immortalité dans le temps. C'est par suite de cette immortalité que, malgré des milliers d'années de mort et de décomposition, il ne s'est encore rien perdu. Il n'a pas encore disparu un atome de matière, et moins encore une seule parcelle de l'essence intime qui se présente à nous sous l'aspect de la nature.
Bonjour Jean-Michel Beignet, bienvenue au nouveau chemin de la connaissance, bienvenue sur France Culture. C'est une joie toute particulière en ce qui me concerne de vous accueillir aujourd'hui, je dirai peut-être tout à l'heure pourquoi, dans l'immédiat. On va partir de ce texte, un texte qui étrangement d'ailleurs est de Schopenhauer. Schopenhauer qu'on réduit à tort, indûment, à son pessimisme. Schopenhauer est également un irrationaliste, un penseur du présent et d'une certaine façon un remède au néant dont nous redoutons le gouffre. On est ici en présence d'une, une version de l'immortalité, qui paradoxalement abolit un temps linéaire. En somme, l'immortalité n'est pas ici la perpétuation de la durée, mais elle est au contraire le retour éternel de ce qui demeure.
Oui, absolument. Vous avez raison de dire que ce Schopenhauer-là n'est pas le Schopenhauer sombre et pessimiste que l'on a pris l'habitude de...
C'est celui qu'on connaît quand on ne le connaît pas.
C'est ça, exactement. Au fond, ce Schopenhauer-là, c'est celui qui a puisé chez Bichat une définition de la vie qui est extrêmement tonique et tonifiante. Hein, Bichat, en 1802, je crois à peu près, définissait la vie comme l'ensemble des forces qui s'opposent à la mort. Et c'était évidemment une espèce d'aveu d'optimisme. Hein. Donc c'est la vie comme croissance, c'est la vie comme intensification, c'est la vie comme volonté de puissance, au sens où Nietzsche le dira.
Et c'est également la vie comme présent à double titre.
Mais bien entendu.
La vie comme temps présent et la vie comme cadeau.
C'est ça, c'est la vie comme don et c'est la vie comme don éternel, hein, capable précisément de se transformer. Ça me conduit à évoquer justement quelque chose que vous avez déjà rencontré au cours de la semaine, à savoir l'idée selon laquelle la vie serait ou ne serait pas un projet. Parce que je crois que cette conception vitaliste qui s'attache à la personne de Bichat, qui découvrait en quelque sorte les anticorps à l'époque, cette conception de la vie, elle est précisément une conception qui dit que la vie n'est pas un projet, que la vie n'est pas un programme, que la vie, elle est par définition hasard, elle est folie, et qu'il n'y a que la mort qui soit en réalité un projet. Il n'y a que la mort qui nous incline vers le retour à l'équilibre, hein, c'est-à-dire vers la mort. Hein, vous avez évoqué avec Jean-Claude Ameisen la mort cellulaire, l'apoptose. Eh bien, oui, là, on décrit bien la programmation de la cellule qui va mourir.
L'apoptose, donc le suicide cellulaire dont parle Jean-Claude Ameisen, relève de ce qu'il appelle de la mort comme sculpteur. C'est-à-dire que c'est une sculpture de la vie qui élimine ce qui l'empêche tout simplement de prospérer. De sorte que la vie inclut la mort comme une condition de son propre déploiement et la cellule a la sagesse à ce titre de se suicider, celle qui ajourne leur suicide devenant cancéreuse.
C'est ça, absolument. On est dans une conception donc résolument optimiste et tonifiante. Et du coup, le texte de Schopenhauer par lequel vous avez ouvert cette émission est dans cette mouvance-là. C'est l'idée, au fond, que rien ne meurt jamais, tout se transforme. Hein, c'est Diderot dans Le rêve de D'Alembert.
Et Lavoisier.
Hein, donc c'est cette espèce de grand optimisme. Et au fond, le véritable pessimisme de Schopenhauer, il tient surtout au fait que nous vivons dans l'illusion du commencement et de la fin et que nous en souffrons. Un souffrir de cette conception de la vie, voilà au fond la croix des hommes auxquels s'adresse Schopenhauer et aux yeux de qui il est pessimiste.
En somme, Schopenhauer est pessimiste pour ceux qui considèrent qu'il est désespérant, que la vie ne s'arrête pas à la mienne.
C'est ça, exactement. Mais on a raison. Enfin, bon, Schopenhauer est réputé comme l'un de ceux qui a introduit en France une certaine vulgate bouddhiste. Mais en définitive, c'est bien de cela qu'il s'agit. Hein, parvenir à la sagesse des bouddhistes en découvrant que l'individuation est une illusion, que le moi est vain, c'est ce à quoi Schopenhauer incline et qui n'est pas désespérant.
Alors on a ici une métaphore dans ce texte. On va rester quand même un peu sur ce texte qui est quand même très très étonnant hein, avec vous, Jean-Michel Beignet. On a ici dans ce texte peut-être une métaphore qui est comme un dialogue entre l'Occident et le bouddhisme. Quand il parle de la feuille d'arbre qui, jauni à l'automne et déjà presque tombé, pleure sa disparition. Donc ça, c'est l'Occident.
C'est ça, c'est
l'Occident qui dit « les autres feuilles, ça n'est plus moi, ce sont de toutes autres feuilles, ça n'est plus moi, ça n'est plus ego, donc ego va mourir ». En revanche, le bouddhiste dit, sans vouloir se consoler par la perspective de la verdure nouvelle dont l'arbre se revêtira au printemps. De sorte que le bouddhiste est celui qui adopte une vue, j'allais dire, plus synoptique, plus détachée de lui-même, débarrassée de son enfermement dans un point de vue, au profit d'un ensemble dont il se vit comme l'un des éléments.
C'est ça, le bouddhiste, il accède à l'impermanence. Il accueille l'impermanence comme une chance. C'est la floraison des possibles qui est la dominante pour lui. Et effectivement, que la feuille se désespère parce qu'elle disparaît en tant que feuille singulière sans s'aviser qu'elle est aussi potentiellement toutes les autres feuilles, bon, voilà l'aberration qui exige qu'on s'éveille, comme diraient les bouddhistes, à ce karma autorisé par la prise en considération de l'interconnexion de toutes choses, de l'impermanence et de la vacuité.
Cette prise en considération qui permet à ce moment-là de sortir de ce qu'on a appelé, on en a parlé d'ailleurs au Nouveau Chemin dans une semaine sur la mort cette fois-ci, ouais. Qui n'était pas le contraire de la semaine sur la vie. C'est ce qu'on peut comprendre. Donc cette interconnexion qui est une façon aussi de remédier à toutes les stratégies de l'esquive. L'une des expressions des stratégies de l'esquive, c'est celui qui dit « Mais mon Dieu, mon corps dans un cercueil, mon corps dévoré par les vers, comme si j'étais encore finalement dans mon corps, comme si j'étais encore vivant, quoique mort, à l'intérieur même du cercueil, sans voir que ça n'est plus moi qui me trouve dans le cercueil. » C'est Lucrèce qui dit ça.
Oui, et là on touche du doigt l'un des leitmotifs de la philosophie rationaliste. Finalement, ce dont nous souffrons ici, c'est de l'imagination, pouvoir s'imaginer soi-même dans ce cercueil, alors que peut-être qu'au bout du compte, l'immortalité, elle ne touche jamais que ceux qui sont morts, ceux qui sont rentrés dans la durée. Parce que précisément, ils sont morts. J'aurais tendance à dire que si l'immortalité, c'est le présent vécu, si le présent vécu pleinement, intensément, au fond, je suis immortel, je dirais hélas, au regard de ceux qui ne sont plus, au regard de ceux qui sont morts et dont je souffre de l'absence. De sorte que ceux qui sont morts auront duré, alors même que moi, qui ne suis pas mort et qui vis au présent, je suis immortel et coupé d'eux.
Mais moi qui ne suis pas mort et qui vis au présent, est-il immortel ou est-il éternel ? Est-ce qu'on peut parler d'immortalité ici, puisque après tout, l'individu qui accède à la sereine contemplation d'un ensemble dont sa propre mort fera partie, en toute rigueur, il n'est pas immortel. En revanche, il peut se vivre lui-même comme de toute éternité, présent à l'instant où il fait cette expérience.
Oui, parce que ce que vous pointez là, c'est l'idée que l'éternité, au fond, désigne quelque chose de positif, alors que l'immortalité est toujours réactive et elle suppose la finitude, elle suppose justement l'arrachement à cette finitude.
Schopenhauer parle d'immortalité dans le temps.
Oui, immortalité dans le temps, et toute immortalité est sans doute dans le temps. Lorsque cette immortalité s'arrache au temps, elle nous confère l'éternité. Et peut-être que, de fait, la sagesse, l'ascèse qui consiste à s'arracher au temps nous fait toucher du doigt l'éternité.
Alors on va aller avec vous vers cette tentative d'arrachement au temps et peut-être les différentes modalités de cette tentative. Et le fait également tout à fait paradoxal, c'est ce que vous racontez dans votre livre, Jean-Michel Beignet, votre livre sur demain, les post-humains, votre livre sur le post-humanisme, donc on va voir de quoi il s'agit. On va voir de quelle façon les humains entreprennent de résoudre ce problème et entreprennent de le faire également par la technique, alors qu'il suffirait peut-être, c'est l'une des leçons du texte qu'on vient d'entendre de Schopenhauer, de le faire en modifiant le point de vue que l'on porte sur sa propre finitude. Mais avant d'entrer dans le détail de ces questions sur la technique et cette façon dont la technique reprend le projet prométhéen platonicien d'immortaliser quelque chose en nous, je voudrais qu'on entende, presque pour le seul plaisir de l'entendre, Romain Gary, au micro de Jacques Chancel, répondant entre autres d'abord à la question de l'euthanasie et puis à la question de savoir ce qu'il adviendrait des hommes si, par malheur, ils vivaient éternellement. Écoutez.
Il y a chez vous également une belle sérénité devant la mort. Pour vous, la mort, c'est une récompense.
Ah oui, c'est tout à fait. Je détire, je m'anime dès que vous parlez de la mort. Je me sens chez moi. J'ai de très bons rapports avec la vie et d'excellents rapports avec la mort. La mort est une chose qui, une des choses les plus calomniées dans le grand dictionnaire, l'encyclopédie de l'humanité. Et ce qui est affreux, ce qui est horrible, ce n'est pas la mort, c'est la façon dont on s'y prend pour vous faire mourir. Car la mort, aujourd'hui, c'est les autres hommes qui vous infligent, et même les médecins dans les hôpitaux, les tortures, le prolongement inutile. Je ne vous parle pas...
Mais si les médecins tuaient, on les arrêterait.
Bon, très bien. Alors, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, le médecin devrait le dire aux malades, et l'euthanasie n'est pas là pour les chiens. Je crois qu'il y a un honneur...
Nous ne sommes pas encore là.
Non, c'est une question que chacun doit résoudre selon sa conscience. Je comprends parfaitement que le médecin répugne, comme certains répugnent à l'avortement. Ça, c'est une autre question. Mais là, une question individuelle. C'est qu'un homme qui n'est plus que de la barbaque, un homme qui ne peut pas être sauvé, un homme qui n'est qu'un tissu de souffrance, prolonger son ticket au-delà de toute limite, c'est un manque de charité et d'humanisme absolument outrageant. Et c'est là que l'on transforme l'homme en un chien.
Vous pensez que des hommes auraient envie de vivre éternellement ?
Probablement parce qu'ils ne se rendent pas compte des ennuis, des ennuis effroyables qu'il y a. D'abord, je crois que si les hommes vivaient éternellement, ils deviendraient fous. Vous comprenez, mais c'est quand même c'est de l'ordre du paradoxe, parce qu'il est possible que si les hommes vivaient, s'ils devaient vivre éternellement, leurs organes et leur psychisme seraient tellement différents qu'ils supporteraient très bien l'éternité. Ce que j'ai dit simplement, c'est que l'homme physiologique et psychique tel que nous le connaissons ne supporterait absolument pas l'éternité.
À mourir pour mourir, je choisis l'âge tendre. Et partir pour partir, je ne veux pas attendre. Je ne veux pas attendre. J'aime mieux m'en aller du temps que je suis belle. Qu'on ne me voit jamais faner sous ma dentelle. Faner sous ma dentelle. Et ne venez pas me dire qu'il est trop tôt pour mourir. Avec vos aubes plus claires, vous pouvez vous faire l'enlair. J'ai vu l'or et la pluie sur les forêts d'automne, les jardins alanguis, la vague qui se cogne, la vague qui se cogne. Et je sais sur mon...
C'est un crève-cœur de parler sur la voix de Barbara, mais il le faut pour les besoins de cette émission. Jean-Michel Beignet, l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance, au terme d'une semaine sur la mort, pardon, sur la vie, bon lapsus, et c'est d'immortalité précisément que nous parlons aujourd'hui ce vendredi pour clore cette semaine sur la vie, le désir mortifère de ne pas mourir. Jean-Michel Beignet, vous posez dans votre livre, dont je rappelle le titre, hein, « Demain, les post-humains », paru chez Hachette Littérature, un excellent livre, que la croyance à l'immortalité est constante dans les cultures primitives. Bon, ça... si j'ose dire, on le savait déjà. Mais vous semblez tisser un lien, finalement, qui va de la conception de l'immortalité ou de l'indivisibilité de l'âme chez Platon, jusqu'à l'ADN, en somme, ce que certains ont désigné comme l'essence de la vie, l'essence impérissable de la vie, non périssable de la vie. Vous semblez repérer une sorte de constante humaine qui déboucherait ensuite sur l'illusion technophile d'abolir la mort.
Oui, je vois et je tente d'inscrire les utopies post-humaines dans la continuité des métaphysiques issues du platonisme. Cette idée selon laquelle notre âme serait enfermée dans notre corps comme dans un tombeau, et l'idée selon laquelle la philosophie devrait nous aider, et les sagesses d'une manière générale devraient nous aider à arracher l'âme à ce tombeau. Bon, je constate que les technologies mises en œuvre aujourd'hui et à partir desquelles on extrapole ne font que prolonger cette ambition, cet arrachement, cette assaise, en disant simplement, voilà, nous disposons des éléments techniques qui nous donne à penser que nous pourrons absoudre l'âme, si l'on veut le dire comme cela, du cœur, et du coup, restituer l'âme à sa véritable vocation, qui est l'éternité.
Conjuguée à la biologie évolutive, la mystique du gène fait de ce dernier l'essence immortelle de la vie, dont les individus ne sont que les véhicules temporaires. On croirait entendre Platon, dont les âmes retournent, je ne sais pas où d'ailleurs, aux cieux, comme erre le Pamphylien. Hein, oui. Je renvoie l'auditeur à la fin de la République de Platon, et avant de s'incarner de nouveau dans un corps provisoire.
Oui, j'ai été surpris en menant l'enquête auprès des technoprophètes, comme on les appelle, de constater à quel point les plus clairvoyants d'entre eux étaient capables de faire le lien entre les utopies post-humaines et les métaphysiques. En général, il y a même d'ailleurs, sans aller chercher les technoprophètes, il y a ce philosophe qu'on redécouvre aujourd'hui qui s'appelle Gunther Anders, hein, qui le dit merveilleusement dans un livre qui s'appelle L'obsolescence de l'homme, hein, un livre écrit en 1956.
Moi, c'est clair.
Où il dit, le titre déjà est à lui-même un programme, mais il explique très très bien que finalement la science et la technique contemporaine renouent avec cette métaphysique ancestrale. Hein, qui cherche à nous donner la clé de compréhension de toute chose, mais à nous mettre en position démiurgique. Et autant on le faisait de manière spéculative dans les grands systèmes philosophiques, autant aujourd'hui on est capable de réaliser à titre de programme cette ambition de se rendre à l'égal de Dieu. Hein, sauf qu'on va se rendre, nous, à l'égal de nos machines. Voilà ce qu'il dit. On va se mettre à la hauteur de nos gadgets.
Avant d'en venir à la façon dont la technique donc s'empare de ce projet métaphysique, je voudrais qu'on entende Jean-Daniel Loup, qui commande son élection à l'Académie française et l'espèce d'immortalité qu'elle lui confère, et qui en vient à parler de l'immortalité des œuvres d'art, de la transcendance de l'art. Et je voudrais savoir, au terme de cet extrait, Jean-Michel Beignet, si finalement l'idée que les œuvres d'art échappent à leurs auteurs comme à leurs interprètes n'est pas également une façon de reconduire le projet métaphysique d'une immortalité par-delà nos petits êtres provisoires. Écoutez.
L'immortalité qui est celle de l'Académie est une immortalité d'un autre ordre et qui est aussi valable. Il y a des choses qui ne périssent pas. Et par exemple, Sophocle ne périt pas. Et Michel-Ange ne périt pas, et Mozart ne périt pas. Je crois à la pérennité des choses vraiment géniales, et je pense que c'est cette immortalité qui est celle des académiciens, et que c'est cette immortalité dont je posséderai un pâle reflet, une petite parcelle.
Et pas d'humour quand même, Jean-Daniel Loup, Jean-Michel Beignet, en parlant de cela. Mais alors juste sur le fond quand même, hein, est-ce qu'on peut penser une immortalité qui... est-ce qu'en somme la permanence de l'œuvre d'art, est-ce que le fait que la chapelle Sixtine soit admirée dans 300 ans vraisemblablement, est du même ordre finalement que la...
J'associerai cette... comparaison de l'art avec la technique, au regard
une sorte
de la
d'ambition
question,
commune, finalement.
Au regard de la question de l'immortalité, oui, il y a une ambition commune, parce que de part et d'autre, chez l'artiste comme chez le technologue d'aujourd'hui, ce que l'on cherche à créer, ce sont des objets autonomes. Créer une œuvre d'art, c'est créer une œuvre qui va se clore sur elle-même, qui va vivre d'elle-même, qui va vivre sa vie d'une certaine façon, qui va constituer une manière de transcendance sublimante, hein, et qui va, par-delà les individus et la petitesse des individus, perdurer dans un ciel éternel. Et l'immortel, l'académicien immortel, c'est celui finalement qui fait presque métier de fréquenter l'art au plus haut point de sa sublimation.
Bon, le
technologue, lui, au fond, il est dans la même posture aujourd'hui. Il crée des objets qui ont la vertu d'être autonomes. Ce serait à vérifier chez les nanotechnologues, par exemple. Ce serait à vérifier chez le roboticien. On réalise des objets qui vont avoir la vertu de l'autonomie, de l'autoconservation, de l'autoproduction. Et ça n'est pas la même transcendance, évidemment. Mais c'est une manière de transcendance. Et j'évoquais tout à l'heure Gunther Anders, la pathologie dominante pour lui, il l'appelle la honte prométhéenne. La honte prométhéenne. Les hommes que nous sommes sont honteux de découvrir que le résultat de leur technique et donc de leur prométhéisme les dépasse et les nie. Nos machines sont bien meilleures que nous. Nos machines sont appelées à perdurer bien au-delà de nous. Et nous en souffrons et nous en sommes mortifiés, nous en sommes humiliés. Nous vivons de cette honte prométhéenne.
On assiste à un renversement, en somme le renversement de Descartes par Heidegger, de l'ambition qui était celle du discours de la méthode, de la fin du discours de la méthode, de nous rendre, c'est le fameux mot de Descartes comme maître et possesseur de la nature, au diagnostic heideggerien d'une technique qui finalement aurait pour effet de...
Qui nous dépossède de l'initiative, qui nous arrache au contrôle. Hein, d'une technologie qui, précisément, est une technologie du non-contrôle hein, et qui, effectivement, nous élimine.
Donc, traquer l'immortalité, c'est renoncer à l'humain.
Traquer l'immortalité, c'est renoncer à l'humain. Hein, c'est renoncer aux attributs de la finitude. C'est renoncer à ces moments impérissables que vous évoquiez tout à l'heure. Alors, les technologies contemporaines rendent la chose évidente. Mais si on lit l'histoire de la métaphysique, on découvre que c'est bien de cela qu'il s'agit. J'aurais aimé évoquer Hegel, la fin de l'histoire. Hein, pour moi, celui qui a le mieux mis en scène la fin de l'histoire, selon Hegel, c'est Raymond Queneau, dans Le Dimanche de la vie, dans ce personnage qui s'appelle Valentin Bru, hein, qui est convaincu que l'histoire est achevée. Depuis 1807, depuis 1917, depuis... Bon, peu importe.
Celui qui considère que l'histoire est achevée a toujours raison.
Ben, il a forcément raison, hein, bien entendu. Mais ce qui est intéressant dans le personnage de Valentin Bru, c'est qu'il veut endosser la fin de l'histoire. Et il sait que pour endosser la fin de l'histoire, il faut expulser l'événement. Exterminer tout ce qui pourrait relancer une histoire à travers un événement.
Donc tuer tout ce qui relève de l'événement pour accéder à la suppression de la mort.
Exactement. Et on le voit décrit par Raymond Queneau, Valentin Bru, qui est continuellement en posture méditative. Il cherche à vider sa tête de toute idée, de toute pensée, hein, faire en sorte de lisser complètement son quotidien, faire en sorte qu'il n'y ait plus que... Ben, là, c'est plus l'immortalité dont il s'agit. C'est l'éternel présent. Hein, l'immortalité, c'est toujours l'acte d'arrachement à la finitude. Hein, l'éternité, c'est l'installation dans la répétition, dans une répétition qui, justement, ne laisse plus la place à l'événement et à l'histoire.
Ne laisse plus la place également à la perte de quelque chose et par conséquent à la possibilité également, ou le loisir que l'on peut avoir de s'y attacher. C'est implicitement ce que Vladimir Jankélévitch explique dans cet extrait qu'on s'apprête à entendre, dans lequel Jankélévitch fait de précaire un synonyme de précieux.
Malgré la perte de vérité que comporte le distancement, l'homme rétablit la distance. Quand elle, par hasard, il l'annule, comme il lui arrive dans un autre domaine que nous aurons à comparer, le moment venu, à celui-ci, comme il lui arrive de recréer la distance pour se passionner lui-même, pour retrouver la ferveur du sentiment. Et parce qu'en effet, il a besoin de l'absence et du déchirement, et même de la mort, pour passionner ses attachements. Et bien de la même manière, et d'ailleurs l'inverse pourrait se dire aussi, c'est dans le malheur qu'il prend conscience du caractère précieux de ses attachements. Qui dit précieux, dit précaire, n'est-ce pas ? Et ceci sans jeu de mots. La mort est bien là pour nous le faire sentir, puisque sans la mort, la vie des êtres qui nous sont chers, sans la possibilité de mourir, cette vie ne nous serait pas si précieuse, sans le caractère unique, irremplaçable, incompensable, fragile de l'existence de quelqu'un qui nous est cher, eh bien nous ne prendrions pas conscience de ce caractère précieux.
Jean-Michel Beignet, l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance, j'allais dire à mi-chemin, non, au terme d'une semaine sur la vie qui s'achève comme il se doit, par la vie qui ne s'achève pas, c'est-à-dire par l'immortalité. On vient d'entendre Vladimir Jankélévitch montrer en quoi la mort passionne nos attachements. On a compris de quoi il veut parler ici, hein, puisque nous ne parlons que de ça depuis le début de cette émission. Mais c'est de technique, évidemment, qu'il faut parler. C'est de la difficulté dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire d'une immortalité qui se conquiert aux dépens de l'homme. Ce que vous-même appelez, Jean-Michel Beignet, me semble-t-il, la fatigue d'être soi.
Oui, parce que bon, l'idée essentielle est de se demander d'où vient que nous témoignons d'un certain attachement à nos machines. D'où vient cet investissement sur les machines? D'où vient que nous nous en remettions à elles du soin de satisfaire ce désir d'éternité? Parce que c'est de cela qu'il s'agit, de cette projection dans un univers de machines qui nous permettra justement d'atteindre l'immortalité.
Ce qui est bizarre, c'est que cet univers de machines est également un univers de satisfactions immédiates.
C'est aussi un univers de satisfactions immédiates qui vont permettre précisément d'expulser
la temporalité.
La projection, la temporalité. On est dans la reproduction, dans la répétition, dans la réplication. Et c'est ça qui est le moteur même de la jouissance. Là, il faudrait un psychanalyste pour rappeler à quel point la compulsion de répétition est l'analogone de la pulsion de mort. Mais donc, l'idée, c'est que cet attachement que nous témoignons aux machines a un revers, c'est vraisemblablement la mésestime dans laquelle nous nous tenons. J'évoquais tout à l'heure Gunther Anders, sonne l'alerte donc à la fin des années 60 en disant « Mais regardez, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus à la hauteur de vos machines et vous découvrez votre précarité, pour reprendre l'expression de Yankelevitch, votre précarité par rapport à ces machines qui sont infiniment plus performantes que vous. » Alors, on peut dire que tout ça s'est confirmé depuis très très largement, j'évoque aussi dans mon livre avant Gunther Anders, les futuristes dont on a célébré le centenaire, Marinetti et autres, futuristes italiens qui étaient exactement dans la même position, sauf que eux, dans les années 20, ils assistaient à la débauche de l'industrie sidérurgique, notamment. Ils disaient, mais regardez, l'acier nous garantit l'inaltérabilité et par conséquent l'immortalité. Si nous pouvions intégrer de plus en plus d'acier dans nos carcasses anatomiques, nous serions donc sur la voie de cette éternité à laquelle nous aspirons. Donc cette fatigue d'être soi que vous évoquiez, c'est l'élément essentiel du diagnostic que je porte sur notre contemporanéité lorsque je découvre cette technophilie invraisemblable par plus d'un trait, qui conduit certains à dire qu'on est à la porte de pouvoir engager une transhumanité, c'est-à-dire une situation dans laquelle l'homme sera devenu décidément obsolète et il aura fait place à une espèce nouvelle, encore indéterminée, mais qui aura un triple privilège, le privilège de ne plus avoir à naître, donc plus de hasard,
oui, clonage, ectogénèse,
clonage, etc., qui n'aura plus besoin de souffrir, nanomédecine, d'une manière ou d'une autre, et qui n'aura plus besoin de mourir, parce qu'on aura cette fameuse technique que les Américains appellent l'uploading, c'est-à-dire ce téléchargement de la conscience sur des matériaux inaltérables, téléchargement qui nous permettrait d'implémenter le contenu de la conscience sur d'autres matériaux, des matériaux inaltérables, sur d'autres formes, et de permettre par conséquent la perpétuation, évidemment bien illusoire, mais on y croit chez les transhumanistes, la perpétuation de l'individu et de l'individuation que nous sommes.
Alors, ce qui est passionnant dans ce que vous dites, Jean-Michel Beignet, c'est qu'on comprend que la critique du clonage ne se fait pas chez vous au nom d'un principe intangible de dignité humaine ou céleste, une sorte d'héritage céleste finalement, d'un homme qui, étant au centre de la création, ne saurait être atteint ou touché. Enfin, en gros, on comprend quand on est catholique pourquoi on est contre l'eugénisme. Ici, il n'est nul besoin, en somme, de revendiquer cet héritage céleste pour comprendre en quoi l'eugénisme, ce que chacun d'ailleurs saisit intuitivement, est au fond une haine de ce que nous avons d'humain.
Bien sûr, mais c'est vrai, y compris chez les plus humanistes des biologistes. Relisez Jean Rostand, qui, à sa manière, est l'avocat de l'eugénisme, puisqu'il dit la biologie, ça sert d'abord et avant tout à améliorer l'homme et à l'arracher à sa condition d'homme. Il ne le dit pas, évidemment, dans ces termes-là, mais il pourrait le dire sans que ça puisse choquer. Aujourd'hui, c'est bien de cela qu'il s'agit. Mettre en œuvre une science et une technique qui nous permet d'augmenter l'homme et de le débarrasser de l'inconvénient d'être né, de cet inconvénient de souffrir, de cet inconvénient de mourir. Alors le clonage, au fond, je n'ai aucun anathème concernant le clonage, c'est bien évident. Je peux même parfaitement comprendre qu'on puisse rêver de pouvoir cloner ce que l'on aime. Se cloner soi-même, se laisser cloner, peut-être que j'y mettrais davantage de réserve.
Un dispositif qui permettrait de mettons dans une banque de données, de garder quelques cellules plus un disque dur contenant la conscience et les souvenirs de quelqu'un à un temps T, mettons à 17 ans ou 18 ans, et de recharger tout ça en cas de mort.
Ça ne vous choque pas non plus.
On se représente ça comme pratique, en somme. on se dit c'est merveilleux, c'est quand même...
Ce serait évidemment commode. Cela dit,
il suffit d'être parent, pour avoir, au fond, le désir d'une telle chose.
Mais bien entendu, c'est ce que je voulais dire, en disant, pouvoir...
supprimer la hantise de la perte.
On peut tous en rêver, on peut parfaitement le comprendre. Alors, le clonage fait souvent l'objet d'une condamnation. Par exemple, chez le philosophe Habermas, parce qu'il dit un clone devra toujours se vivre comme le résultat du projet d'un autre et par conséquent sera hétéronome et définitivement hétéronome. Et par conséquent, il n'appartiendra pas à la famille humaine dont la caractéristique essentielle, c'est l'autonomie. Je pense que c'est un argument à courte vue, parce que par plus d'un aspect, nous sommes en naissant et en grandissant le résultat d'un projet d'un autre, et nous nous arrachons progressivement à cette hétéronomie pour acquérir justement notre autonomie, et c'est cela finalement, entrer dans la morale et dans la vie éthique. Les biologistes savent très bien que imaginer que le clonage ne soit que la répétition d'un génome, c'est extrêmement approximatif, parce que en réalité un clone ne répétera pas un génome. Il sera aussi inscrit dans une dynamique épigénétique qui fera qu'il sera aussi le résultat de son histoire. Et que de ce point de vue-là, il n'est pas complètement exclu qu'il participe à l'humanité.
Alors justement, Jean-Michel Beignet, on va continuer là-dessus, très précisément. Je voudrais avoir votre sentiment sur l'extrait d'un film que je n'ai pas vu, à ma grande honte, mais dont Adèle Van Redt, qui ne se trompe jamais, me dit et me certifie qu'il est remarquable. C'est Bienvenue à Gattaca, un film sur l'eugénisme que vous avez vu manifestement. Et je voudrais savoir ensuite ce que vous pensez de la trajectoire finalement qui attend celui dont il est question.
Comme la plupart des parents de leur époque, ils avaient décidé que leur prochain enfant viendrait au monde grâce à ce qui était devenu la méthode naturelle.
Les ovules qu'on vous a prélevés, Marie, ont été fécondés avec le sperme d'Antonio, votre mari. Après une présélection, nous nous retrouvons, comme vous le voyez, avec deux garçons sains et deux filles très saines. Naturellement, pas de prédisposition à aucune des plus graves maladies héréditaires. Il ne reste plus qu'à choisir le candidat le plus compatible. Tout d'abord, nous pouvons choisir le sexe. Y avez-vous réfléchi ?
Oh, nous voudrions que Vincent ait un petit frère, vous voyez, pour jouer avec lui.
Bien. Vous avez spécifié des yeux noisettes, des cheveux châtains et la peau claire. J'ai pris la liberté d'éradiquer tout risque de préjudice potentiel tel que calvitie prématurée, myopie, alcoolisme et prédisposition aux dépendances, tendance à la violence, obésité, ce genre de choses.
Nous ne voulons pas qu'il ait des maladies, certes, mais...
Oui, nous demandions seulement si ce serait bien de laisser quelques petites choses au hasard.
Vous voulez donner à votre enfant le meilleur départ possible ? Faites-moi confiance, il reste déjà suffisamment d'imperfections. Non, votre enfant n'a pas besoin de fardeau supplémentaire. Et gardez à l'esprit que cet enfant est toujours vous. Simplement le meilleur de vous. Vous pourriez concevoir de façon naturelle un millier de fois et ne jamais atteindre un tel résultat.
Voilà comment mon frère Anton vint au monde. Un fils que mon père considérait digne de son nom.
Jean-Michel Beignet, le premier réflexe, c'est de dire, bon, c'est du nazisme. Le deuxième réflexe, c'est de se dire, en quoi la suppression eugéniste du hasard est-elle totalitaire si, comme vous le dites, un enfant fût-il cloné, peut en droit s'affranchir, pourrait en droit s'affranchir de ses gènes, finalement, de son programme.
Je voudrais dire d'abord que dans le film dont il est question ici, ce n'est pas de clonage qu'il s'agit, mais de fécondation in vitro.
Oui, absolument, c'est de génisme.
Le génisme, avec un tri-embryonnaire.
Oui, je vous avais dit que je ne l'avais pas vu. Voyez, non, allez-y.
Voilà, donc c'est exactement ce dont on est en train de parler aujourd'hui, au moment où on est en train de réviser les lois de bioéthique. Hein, c'est fécondation in vitro et transplantation d'embryons. Il y a deux semences, et il y a une fécondation in vitro, et puis tri-embryonnaire qui permet de choisir tel ou tel aspect physique, y compris des aspects qu'on pourrait peut-être laisser au hasard, etc. Donc c'est plutôt de parthénogenèse qu'il s'agirait ici que de clonage. Cela étant, il s'agit bien d'une pratique eugéniste, et d'un eugénisme que, justement, Habermas, que j'évoquais tout à l'heure, appelle libéral. C'est-à-dire un eugénisme qui tient au marché aujourd'hui, puisqu'on nous propose des biotechnologies, se disent la plupart des gens, pourquoi ne pas y recourir pour, justement, expulser le hasard dont nous souffrons. Donc, on est là dans une stratégie consumériste. Hein, le clonage, ou les fivettes ou d'autres techniques, l'uploading que j'évoquais tout à l'heure, étant à disposition, ce serait, disent certains, criminel et immoral de ne pas y recourir. On entend de plus en plus de gens qui disent « si je peux peaufiner l'enfant à naître, je dois le faire », parce qu'il pourrait toujours me reprocher par la suite de ne pas l'avoir doté des attributs et des facultés auxquels il pourra légitimement aspirer au cours de son existence.
Oui, mais que vaut cet argument au regard de ce qu'on tient, alors peut-être est-ce un héritage théologique spontané ou immanent à chacun, de ce qu'on tient pour le caractère inaliénable d'un individu. Et ce que finalement la maman laisse entendre, la mère laisse entendre quand elle dit « mais on voudrait quand même laisser une petite place au hasard ». Le hasard, c'est ce qui est irréductiblement humain en chacun de nous.
Oui, c'est le hasard et c'est l'altérité. Au fond, c'est l'idée que faire grandir un individu, c'est l'inscrire d'emblée dans une posture d'altérité. La mêmeté est effrayante, parce que précisément, elle est l'interdiction de l'histoire, elle est l'interdiction du processus. Vouloir un enfant à son gré, le choisir sur programme, sur catalogue, c'est lui dénier a priori l'humanité, parce que l'humanité est solidaire de l'altérité. Alors c'est un thème philosophique.
Ou de l'altération, d'un devenir autre.
Je dirais aussi l'altérité, l'altération, le mal, si on veut, la liberté. Vous voyez, là, on a des chaînes paradigmatiques qui sont parfaitement cohérentes et bien identifiées. Et vouloir utiliser les technologies pour supprimer tout cela, c'est, vous avez employé l'adjectif tout à l'heure, se livrer à une entreprise d'ordre totalitaire. Puisque le totalitarisme, c'est bel et bien la volonté de supprimer l'altérité, de supprimer l'altération, de supprimer le mal, et de supprimer évidemment la liberté.
Oui, mais Jean-Michel Beignet, l'ambition est totalitaire. Mais si cette ambition totalitaire échoue finalement à résorber la part de hasard, d'altérité ou d'altération, si en somme le clone s'affranchit de son code génétique, comme tout individu le fait, et comme d'ailleurs tout individu peut s'affranchir du désir que ses parents ont déposé sur lui et des ambitions que les parents peuvent avoir pour un enfant. Si, en somme, il est inévitable, j'allais dire presque nécessaire, qu'un individu dispose en lui d'une part de hasard qui lui permette de devenir autre que ce qu'on prévoit pour lui, est-ce que l'échec de l'ambition totalitaire, eugéniste, etc., paradoxalement, ne la rend pas, alors pour le coup, presque possible ou fréquentable ?
Ben voilà, bon, c'est une manière effectivement de se rassurer. On dira que le fantasme des transhumanistes est un fantasme pas dangereux parce que, résolument.
De toute façon, ils ne pourront pas.
Ils ne pourront pas. Alors, du coup, est-ce que ça rend la question inintéressante ? Est-ce que ça rend le transhumanisme inintéressant ? Eh bien, je dis précisément non. Ça nous conduit simplement à considérer que le transhumanisme est intéressant en tant que symptôme, symptôme de ce que nous pensons aujourd'hui à propos de nous-mêmes, de ce que nous projetons à titre d'idéaux dans nos vies, dans nos existences. Ça en dit long sur le
système de... Et du lien entre la haine de soi et le désir d'un idéal.
Voilà, très exactement. C'est de cela qu'il s'agit. Au fond, le transhumanisme, il nous en dit long sur nous-mêmes aujourd'hui. Hein, on n'a pas évoqué le nom de Michel Houellebecq, mais par exemple, ça mériterait qu'on le fasse, parce que le succès de ces romans tient justement au fait qu'il conjugue les spéculations issues des biotechnologies et cette espèce de déprime fondamentale, de fatigue d'être soi qui caractérise l'humanité crépusculaire que nous sommes aujourd'hui. Hein, la possibilité du Nil est un roman formidable de ce point de vue-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez des toutes premières lignes. Hein, les premières lignes, c'est « Bienvenue dans la vie éternelle ».
Bienvenue dans la vie éternelle.
Bienvenue absolument. Dans la vie éternelle. Hein, et ensuite, bon, on découvre que les héros de ce roman sont des clones, Marie 22, Daniel 24, Daniel 11, etc., qui chacun endosse un parcours d'existence, hein, des récits de vie hein, qui s'enchaînent de manière chaotique, qui s'essoufflent, et qui compose finalement une configuration absurde et incoordonnée.
Hein. Alors le paradoxe, ce qui est étonnant dans la possibilité du Nil, dont on va d'ailleurs pour terminer cette émission à votre compagnie entendre un extrait, Jean-Michel Beignet. Ben oui, on a travaillé en amont hein, avant de discuter sur l'immortalité.
Je le savais.
Et le temps passe, donc il faut qu'on en finisse avec l'immortalité. Mais juste peut-être pour rappeler ceci, hein, dans la possibilité du Nil, on a un mélange de technicité extrême, de technophilie extrême et d'un messianisme eschatologique. En somme, c'est la vie éternelle, mais c'est la vie éternelle ici-bas. Et ce qui, peut-être du point de vue de l'auteur ou du point de vue du narrateur de la possibilité du Nil, est une valeur ajoutée, peut également être vécu du point de vue du lecteur comme une valeur ôtée. Ce qu'on aurait ôté, c'est précisément ce qui fait l'humanité de l'homme. On va entendre tout de suite cet extrait, Jean-Michel Beignet.
L'élohimisme, de son côté, était parfaitement adapté à la civilisation des loisirs au sein de laquelle il avait pris naissance. N'imposant aucune contrainte morale, réduisant l'existence humaine aux catégories de l'intérêt et du plaisir, il n'en reprenait pas moins à son compte la promesse fondamentale qui avait été celle de toutes les religions monothéistes, la victoire contre la mort. Éradiquant toute dimension spirituelle ou confuse, il limitait simplement la portée de cette victoire et la nature de la promesse à la prolongation illimitée de la vie matérielle, c'est-à-dire à la satisfaction illimitée des désirs physiques. La première cérémonie fondamentale marquant la conversion de chaque nouvel adepte, le prélèvement de l'ADN, s'accompagnait de la signature d'un acte au cours duquel le postulant confiait à l'Église, après sa mort, tous ses biens. Celle-ci se réservant la possibilité de les investir, tout en lui promettant, après sa résurrection, de les lui rendre en pleine propriété. La chose apparaissait d'autant moins choquante que l'objectif poursuivi était l'élimination de toute filiation naturelle, donc de tout système d'héritage, et que la mort était présentée comme une période neutre, une simple stase dans l'attente d'un corps rajeuni. Après une intense campagne auprès des milieux d'affaires américains, le premier converti fut Steve Jobs, qui demanda et obtint une dérogation partielle au bénéfice des enfants qu'il avait procréés avant de découvrir l'élohimisme. Il fut suivi de près par Bill Gates, Richard Branson, puis par un nombre croissant de dirigeants des plus importantes firmes mondiales.
C'est bien dommage d'en finir déjà. Hein. Cette conversation aurait pu se prolonger éternellement, Jean-Michel Beignet. Je rappelle que vous enseignez la philosophie à Paris 4, à la Sorbonne, que vous êtes membre des comités d'éthique du CNRS et de l'INRA. C'est d'immortalité que nous venons de parler aujourd'hui pour clore cette semaine sur la vie dans les nouveaux chemins de la connaissance. Je rappelle le titre de votre livre, un excellent livre, « Demain, les post-humains ». Le futur a-t-il encore besoin de nous? Ça, c'est le sous-titre chez Hachette Littérature dans la collection Haute Tension. J'en profite aussi pour rappeler à titre personnel, car c'est un livre qui, en ce qui me concerne, a changé ma vie, votre histoire de la philosophie moderne et contemporaine, qu'on peut trouver aujourd'hui en livre de poche, accessible, et que je recommande en particulier à ceux qui entament les études de philosophie. C'est avec vous, donc, Jean-Michel Beignet, que se termine cette semaine consacrée à la bioéthique. Après Jean-Claude Amezen, Paul Valadier, Jean-Didier Vincent, Guillaume Leblanc et Barbara Stiegler, c'est-à-dire après la mort cellulaire, la vie sacrée, Canguilhem et Nietzsche, c'est d'immortalité que nous avons parlé en votre compagnie. You're gonna rise up singing. You're gonna spread your wings. Shout and take to the sky. Nothing's going to harm you now. Na 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 na. À la technique aujourd'hui, Vincent René, à la réalisation Cédric Aussire, assistant et collaboration, un grand merci à L4, Geneviève Méric, Adèle Vanrette, Jennifer Murzo et Florence Malfatto, à la bande son Janis Joplin. À 10h50 sur France Culture, on retrouve le journal des Nouveaux Chemins. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël. Et bonjour à tous. Ainsi s'achève cette semaine sur Freud dans le journal des Nouveaux Chemins. Toute cette semaine, nous avons parlé de Freud, donc de ses textes, de son écriture, à l'occasion de l'entrée de ses œuvres dans le domaine public depuis le 1er janvier dernier. Toutes les maisons d'édition s'y mettent et chacune propose sa version, voire sa traduction des textes freudiens. Mais comment un seul texte original peut-il donner lieu à autant de versions? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui avec Pierre Côté, à qui l'on doit en partie l'existence d'une aventure éditoriale magistrale au PUF. Bonjour Pierre Côté. Vous êtes directeur de la publication de ce qu'on appelle les OCFP, donc œuvre complète de Freud-psychanalyse, dont le premier volume est paru au PUF en 1988, sous la direction scientifique de Jean Laplanche. Alors Pierre Côté, quelle est selon vous la spécificité de cette entreprise de traduction, qui peut paraître démesurée puisqu'il s'agit de publier l'intégralité du texte freudien par rapport à d'autres traductions?
Écoutez, quand a débuté notre entreprise, je lui avais trouvé 5 spécificités. Je constate qu'elle les a conservées et cette constatation me réconforte.
Alors quelles sont-elles ces 5 spécificités?
La première spécificité, c'est un travail collectif. Résultat du travail d'équipe regroupant chacune psychanalyste ou psychiatre et germaniste, une instance de révision fait la synthèse et assure l'harmonisation. Il en va ainsi depuis 26 ans, comme vous venez de le rappeler, depuis 1984, date à laquelle fut mise en place ce que notre président Michel Prigent appelle la structure de pilotage. L'image serait celle d'un navire, puisque d'un avion. La mâture a parfois un peu tremblé, mais le bateau tient la mer. Depuis plusieurs années, et sans doute jusqu'à la fin, sont au travail 4 équipes qui ont résisté à toutes les tempêtes. La deuxième spécificité, c'est notre indépendance, j'allais presque dire institutionnelle. Nous nous efforçons de dégager Freud de toutes les sédimentations idéologiques. Ne pas le scientifiser, ne pas le lacaniser, ne pas le psychiatriser, ni même le laplanchiser, nos options terminologiques ne s'alignant pas forcément sur celles du fameux vocabulaire Laplanche Pontalis.
Donc est-ce que ça veut dire que dans votre entreprise de traduction, vous n'essayez de prendre aucun parti pris? Vous essayez d'être le plus neutre et le plus fidèle au texte possible?
Non, nous ne prenons aucun parti pris, et c'est d'ailleurs notre troisième spécificité. Nous essayons de rendre notre lecteur, de laisser notre lecteur aussi libre que possible.
C'est-à-dire aussi libre
que possible. La construction de Freud, sa ponctuation, entraîne quelquefois, pas très souvent, mais quelquefois des ambiguïtés. Nous les maintenons. C'est-à-dire, là où il y a énigme, nous ne proposons pas de clé. Et au fond, le texte, rien que le texte, est un de nos slogans. Alors, la quatrième spécificité, c'est le refus de l'ethnocentrisme auquel nous tenons essentiellement. Nous avons la volonté de respecter l'identité culturelle de Freud, son étrangeté, son être étranger. On sait d'ailleurs combien il redoutait toute romanisation de son œuvre et se méfiait du génie latin. Nous le soumettons à l'épreuve de l'étranger, selon l'expression d'Antoine Berman, dont la mise en garde est notre devise. Je l'ai très très souvent répété, je le répète une fois de plus. J'appelle, dit Berman, mauvaise traduction, celle qui, généralement sous couvert de transmissibilité, opère une négation systématique de l'étrangeté de l'œuvre étrangère. Cette conception fait encore et toujours figure de nouveauté, ce qu'elle n'est absolument pas. Elle se réclame en allemand de August Wilhelm Schlegel ou de Hölderlin, de Wilhelm von Humboldt ou de Goethe, et en France de Théophile Gautier, jugeant la traduction en français de Bethea Hoffmann, ou de Chateaubriand, traducteur de Milton.
Mais quand vous dites que vous essayez de préserver l'étrangeté de Freud, est-ce que vous voulez dire que vous essayez de ne pas franciser Freud et de préserver un Freud germanique ?
Mais la germanité de Freud nous semble une évidence. Et Théophile Gautier, par exemple, je cite juste une ou deux phrases très brèves. Un traducteur serait malvenu de dire qu'il a retranché, transposé ou modifié tous les passages qui ne se rapportent point au goût français. Si l'on traduit, c'est pour enrichir la langue de pensées, de phrases et de tournures qui ne s'y trouvent pas. J'aime mieux, dit Théophile Gautier, un germanisme de style qu'une inexactitude. Et nous n'allons peut-être pas aussi loin que lui. Chateaubriand, je vais être très bref, dit à propos de sa traduction de Milton, « J'ai calqué le poème à la vitre. Je n'ai pas craint de changer le régime des verbes lorsque, restant plus français, j'aurais fait perdre à l'original quelque chose de sa précision, de son originalité ou de son énergie. » Donc peut-être par pusillanimité, nous n'allons pas aussi loin que lui. Nous n'allons pas au-delà du précepte de Laplanche, justement, oui au français freudien, non au français germanique. Mais, et là je tiens beaucoup à ce que je vais dire maintenant, l'étranger chez Freud, ce n'est pas seulement l'étranger de la langue allemande, c'est aussi et surtout l'étranger de sa découverte. La langue de Freud est le vecteur de sa découverte, l'inconscient, la sexualité. Une étrangeté radicale qui transcende d'emblée la différence empirique entre le français et l'allemand. J'évoquais tout à l'heure, avant l'émission, un propos qu'avait du professeur Gessmann, rappelant même que la langue allemande avait pour Freud quelque chose d'étranger, puisqu'il avait été élevé dans un milieu où l'on parlait un mélange de yiddish, de polonais et ukrainien.
Oui, cela, on en a parlé notamment avec Janine Altounian mercredi dernier. Merci Pierre Côté. Malheureusement, c'est déjà la fin de notre entretien. Je rappelle que l'intégralité du texte freudien va être traduit et va paraître en poche au PUF ces prochaines semaines. Autre actualité éditoriale, on trouve en ce moment une histoire de l'islam de Sabrina Mervin chez Flammarion dans la collection Champs Histoire. L'auteur est spécialiste du chiisme contemporain et dans ce livre, en proposant une histoire de l'islam, elle tente de donner à comprendre les divergences qui se sont progressivement constituées au sein de la même communauté islamique. Sabrina Mervin met ainsi en évidence le socle commun sur lequel les évolutions doctrinales successives se sont greffées et le grand mérite de cet ouvrage est donc de replacer les courants de l'islam contemporain dans leur histoire au cœur des tensions entre réformisme et tradition. Je vous recommande donc la lecture de cette histoire de l'islam, Fondements et doctrines, par Sabrina Mervin, qu'on trouve chez Flammarion dans la collection Champs Histoire.
Merci Adèle, merci à tous. C'est la fin donc de cette semaine consacrée à la bioéthique dans les nouveaux chemins de la connaissance. Une semaine déjà diffusée du 15 au 19 juin 2009 sur France Culture. C'est la fin également de la semaine que le journal des nouveaux chemins avait consacrée à Sigmund Freud. Changement de décor, la semaine prochaine on passe de la bioéthique à Platon. ce sera l'occasion pour nous de vous proposer une deuxième semaine sur Platon. 5 dialogues de Platon feront l'objet de 5 discussions. Le Théétète, le Banquet, le Protagoras, l'Apologie de Socrate. Et nous commencerons par le plus beau de tous, certainement, le Phèdre, en compagnie de l'universitaire Laetitia Mouze. 10h59 sur France Culture, dans un instant, question d'époque.